SRF bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass, jetzt auf Kanal K. Amis panafricanistes, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse et alémanique. Eh bien, vous suivez donc la deuxième partie de cette émission. Cette deuxième partie qui sera donc rediffusée demain dimanche à 18h GMT et sur notre radio partenaire Légende FM. Merci beaucoup à notre radio partenaire Légende FM à Lomé au Togo. Eh bien, dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons de la crise politique au Togo et notamment de la violation des droits de l'homme qui devient récurrente dans ce pays. Olivier Hamma, ancien militaire commandant, un des responsables et donc président de l'association des victimes de la torture au Togo, sera l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, quand la politique ne va, rien ne va, dit-on souvent. Depuis des années, le football togolais est malade. Et même l'opinion nationale accuse la Fédération togolaise de football de malgérance. À quelques semaines donc de sa participation à la phase finale de la CAN 2013 en Afrique du Sud, une crise infernale secoue le football togolais. Quelles en sont les raisons? Nous en parlerons également avec Raoul Adabla, un ancien membre influent de la FTF, Fédération togolaise de football, qui sera l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Il sera également en ligne en direct depuis l'Espagne. Eh bien, Josué Maoli, Esteban Gagnon, Romain Koudjodi, Fabi Kwasi constituent l'équipe permanente. Réalisation et présentation de cette émission, Sylvain Amos. Amis fidèles auditeurs, merci d'être connectés sur le www.canalk.ch. Eh bien, et pour ne pas perdre du temps, nous allons accueillir tout de suite en direct depuis Lomé notre correspondante Fabi Kwasi et qui nous fera le point sur la situation politique actuelle de la semaine au Togo. Bonsoir.
Sylvain, bonsoir, bon retour et bonsoir à nos auditeurs.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Alors Fabi, quelles sont les actualités politiques qui ont marqué le Togo cette semaine?
Elles sont nombreuses. On va s'intéresser précisément aujourd'hui à la vie carcérale au Togo. Dur, dur pour les détenus sous fort Niassimbé. Les conditions carcérales restent des plus désastreuses avec la surpopulation. Et pour la prison civile de Lomé, l'effectif est à ce jour à 1964 détenus pour une prison conçue pour 666 places. Avec un seul infirmier et une assistante pour près de 2000 prisonniers, une rupture de produits pharmaceutiques depuis plusieurs mois, c'est bien le calvaire. Au compteur des décès, 39 déjà depuis mars de cette année. Pour illustration, les 35e et 36e décès sont survenus au CHU Tocoin, au Cabano précisément. Il s'agit de Blackney et Hénopole, morts de syndrome infectieux de poumon. Quant à Blackney, il est tombé dans un coma et malgré les tracas de la famille, il a agonisé à même le sol sur une simple natte en plastique avant de rendre l'âme. C'est vraiment l'enfer sur terre. Chaleur étouffante, difficile de circuler dans la cour chaque semaine. C'est manuellement que les détenus curent les fosses septiques. Aucune mesure d'allègement de peine. Quand même, le certificat médical déclare le détenu inapte à la prison. Aucune mesure n'est prise pour le désengorgement des centres pénitentiaires, donc fermé à 17h40 GMT, Déjà à 20 heures, les murs et les toitures ruissellent d'eau du fait de la grande chaleur. Dans le bâtiment conçu pour 10 à 15 détenus maxi, on en dénombre aujourd'hui 60 à 82. Les sanitaires restent en piteux état, curés à même la mer et on fouille sur place. Et quand il pleut, Sylvain, c'est la belle merde. Les malades se mettent en rang serré en moyenne un mois avant d'avoir la chance de se faire consulter. Et pour y passer dans les meilleurs délais, il faut avoir perdu connaissance au fameux canado où le médecin peut mettre 3 mois avant qu'on ne le voie une seule fois. À cela, il faut ajouter le cas critique du capitaine Lambert à Dinan, incarcéré dans l'affaire de coup d'État, ce que nous appelons par ici le Patagate, où à la suite des séances de torture, il développe une tumeur cancéreuse dans l'oreille et nécessite d'être évacué d'urgence. Mais depuis, le gouvernement reste silencieux, où on en était là donc quand la nouvelle du décès du général Tijani à Paris est parvenue à Lomé ce vendredi soir, comme quoi la prison par ici n'est pas loin des camps de concentration.
Oui, Fabi Kwasi, pour finir cette actualité politique de la semaine au Togo, est-ce que nos auditeurs de Radio Canal KMM de Légende FM à Lomé au Togo pourraient avoir une idée sur les activités du collectif Sauvons le Togo et bien sûr après quelques semaines de silence de leurs activités à Lomé?
Oui, avant le collectif Sauvons le Togo, Sylvain va parler rapidement de cette affaire d'escroquerie internationale qui implique aujourd'hui Bertin Agba, Pascal Boudjona et Loïc Le Floch Prigent, avec ce cri de cœur de Madame Marlène Prigent qui a adressé une lettre ouverte à Monsieur François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, faites quelque chose pendant qu'il est encore temps. Vous êtes seul à pouvoir convaincre le Togo qu'un homme mort de peut être jugé. Et depuis la publication de cette lettre, c'est silence radio du côté des autorités togolaises. Coup de théâtre dans le dossier Bertin Agba. La gendarmerie débarqua hier vendredi à 7h30 pour motif de perquisition de sa cellule. 4 chefs d'inculpation pèsent sur lui depuis 48 heures. Atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse, détention illégale de moyens de communication, complicité d'évasion. De sources proches du dossier, les avocats estiment que le pouvoir fait feu de tout bois pour maintenir M. Agba en prison, puisque la procédure d'urgence a été entamée au niveau de la cour de la CEDEAO et M. Agba devait être libéré illico presto, ce que Fonia Sindé ne veut pas voir. Et donc son prisonnier personnel va être détenu en prison pour d'autres chefs d'inculpation. Quant à Pascal Boudjona, la chambre d'accusation va siéger mercredi prochain pour renvoyer le ministère public à mieux se pouvoir, conformément à l'arrêt rendu le 15 novembre par la Cour suprême. Ensuite, il y aura une autre audience pour statuer sur les mérites de son appel. Tout cela dans le cadre de la première procédure où il est témoin. En revanche, le juge n'a toujours pas répondu aux requêtes de la deuxième procédure qui le maintient toujours en détention. Revenons au collectif Sauvons le Togo, comme tu le disais, donc le collectif renoue avec ses activités. Après les difficultés et dysfonctionnements internes, l'échec cuisant de ce énième dialogue où le collectif et son partenaire de l'arc-en-ciel ont claqué les portes des discussions, le CST revient au devant de la scène d'abord pour rappeler que le mandat des députés a expiré depuis et le prolongement de ce mandat par la Cour constitutionnelle ne leur confère en aucune manière une légitimité conformément à l'ensemble de l'article 52 de la Constitution. Pour le CST, il faut nécessairement un accord avec la classe politique pour voir dans quelle mesure les députés pourront rester en fonction jusqu'aux prochaines législatives. Il va sans dire que le pouvoir, fidèle à ses habitudes, est décidé à aller à pas de charge aux élections, comme d'habitude, pour des résultats connus d'avance. Si discussions, concertations, dialogues reviennent de plus en plus souvent dans les positions du collectif, souvent le Togo, le CST semble décidé à donner de l'insomnie, en tout cas au pouvoir, comme aux premières heures de sa création d'ailleurs, avec des manifestations tous azimuts, ponctuées de séances de jeûne et prière qui ont déjà commencé cette semaine. Prochain rendez-vous le 20 décembre 2012 et de deux pour les femmes qui seront parées de rouge à travers une marche, histoire de donner un nouveau carton rouge au pouvoir de Gnassi. Mais 2013 promet ne pas être de tout repos, ni pour le collectif, ni pour le pouvoir, et surtout pour la police et la gendarmerie, avec cette opération labellisée les dernières tours de Jéricho, les 10-11-2 janvier 2013, où simultanément, dans plusieurs villes du pays, les manifestations se feront, et Lomé connaîtra ainsi son décontroi.
Fabi Kwasi, merci et à samedi prochain.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, merci de votre fidélité et merci de nous suivre en direct sur le www.canalk.ch. Eh bien, nous allons également rester toujours au Togo et nous allons parler cette fois-ci des droits de l'homme au Togo. Et notre invité est également en ligne en direct depuis Lomé. Nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir, commandant Olivier Aman.
Bonsoir, monsieur Amos, et puis bonsoir aux fidèles auditeurs de la radio Canal K.
Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi d'être en direct depuis Lomé dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Olivier Aman, vous êtes un des responsables de l'association. Donc, vous êtes aussi le président de l'association des victimes de la torture au Togo. Il y a environ un mois, vous étiez à Genève, ici même en Suisse, pour présenter un rapport sur les droits de l'homme au Togo. Alors, Olivier Aman, que peut-on retenir donc du passage du Togo devant le communauté et contre la torture?
Merci. Au fait, nous étions à Genève pour le passage du Togo devant le comité contre la torture. Donc, moi-même, je suis arrivé sur le sol helvétique le 7 novembre, je pense. Et j'ai suivi une formation de 2 jours avant de rencontrer le comité contre la torture. Donc, vous savez, nous sommes des victimes de la torture. Donc, l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, nous a invités pour qu'on se fasse entendre par le comité en vue de pouvoir demander des choses à faire au niveau du gouvernement togolais. Donc, moi-même, j'ai fait un long exposé sur la situation de la torture au Togo et surtout ceux qui sont victimes de la torture. Donc, nous avons eu à passer devant le comité, nous avons exposé beaucoup de choses. Seulement, ce que nous avons remarqué est que les membres du comité étaient vraiment choqués parce que tout ce que j'ai raconté était vraiment émouvant. Donc, vous savez, ils se sont étonnés que depuis la signature, ou du moins depuis que le Togo a ratifié cette convention, il n'a rien mis en œuvre. Donc, nous sommes arrivés, nous avons exposé les faits. Je pense que le Togo a été rappelé à l'ordre pour qu'il puisse mettre en œuvre cette convention qu'il a ratifiée depuis 1987.
Justement, Olivier Aman, parlant justement de votre exposé, il semble que cet exposé a fait froid dans le dos aux experts onusiens. Alors, quelles sont les grandes lignes de cet exposé, Olivier Aman?
Bon, je redis encore que cet exposé a été vraiment confidentiel, mais soyez tranquille, j'ai essayé de toucher ce que nous-mêmes nous avons vécu, ce que les autres ont vécu, et puis ce que nous avions vu en tant que membres des forces armées togolaises, officiers dans l'armée togolaise, les comportements, les dérives, tout ce que nous avions constaté par le passé, je pense que nous les avons exposés pour que le comité soit édifié pour pouvoir poser des questions des questions à la délégation togolaise.
Oui, Olivier Ma, à Genève, vous avez également plaidé pour vos amis et surtout et pour l'évacuation du capitaine Lambert Adinon. Et où en êtes-vous avec ce dossier depuis votre retour à Lomé au Togo?
Voilà, en ce qui concerne le capitaine Adinon, le cas a été exposé non seulement par la Suito, mais aussi le CACIT et puis la CAT. Donc, le gouvernement togolais a promis au comité qu'il va prendre, qu'il prendrait une décision les jours qui allaient suivre. Mais nous sommes étonnés, surpris que jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Cela prouve encore que le gouvernement togolais, des fois, joue. Je pense que cela a été relevé par les membres du comité, que vous savez, les Togolais, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de faire, nous allons faire, et puis ils promettent, mais ils ne font rien. Donc, pour le cas Adinon, Adinon est là, rien n'est fait pour le moment. Pour les autres aussi qui sont torturés, qui sont encore en prison, nous avons évoqué leur cas. Et l'État m'a dit que ils sont déjà condamnés, donc il faudra annuler la condamnation avant qu'ils ne soient libérés. Donc nous sommes en train de travailler pour que la condamnation soit annulée. Vous savez, d'ici lundi, le 10 décembre, le Togo va encore se présenter devant la justice de la CEDEAO pour notre affaire. Donc vivement que la condamnation soit levée pour que tout le monde puisse sortir et que les autres cas de torture qui sont signalés et qui n'ont pas été qui n'ont pas encore fait l'objet d'enquête, comme le cas Agba, le cas Eugène Atiga et d'autres cas encore, à Zalenko, les gens de Sursaut Togo, les gens qui ont été arrêtés en 2005, je pense que nous allons travailler pour qu'on ouvre une enquête sur ces différents cas en vue d'édifier les populations togolaises pour que la torture s'arrête au Togo.
Oui, et Olivier Aman, y a-t-il une chance que les gouvernements togolais respectent une fois les droits de l'homme et surtout ceux des détenus au Togo?
Je pense que l'ambiance qui a régné dans la salle au cours de cet examen, je pense que le gouvernement togolais doit prendre conscience. Vous savez, l'article 13 de la Convention contre la torture protège les plaignants. Donc, ils ont obligation de nous protéger, nous qui sommes en train de dénoncer ces actes de torture. Ensuite, l'article 14 parle de la réparation, de la réhabilitation de tous ceux qui sont victimes de la torture. Donc, moi, j'ai foi en Dieu, et puis je dis que aujourd'hui, ils ont fait des promesses devant ce comité. Nous qui sommes de la société civile, nous avons un devoir actuellement. Nous avons un devoir, c'est de suivre le gouvernement comme du lait sur le feu pour leur rappeler ce qu'ils doivent faire pour que le problème de torture finisse au Togo. Donc, nous allons les suivre et s'ils ne le font pas, nous allons leur rappeler. Et s'ils continuent de ne pas le faire, je pense que nous allons faire des rapports pour signaler tout ce qui se passe au niveau du comité. Je pense que l'ambiance qui a régné dans la salle, le gouvernement togolais est averti.
Olivier Aban et plusieurs associations de défense des droits de l'homme, y compris votre association des victimes de la torture au Togo, dénoncent les graves violations des droits de l'homme au Togo, mais cela persiste toujours. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, la recrudescence des droits de l'homme au Togo?
Vous savez, le problème des droits de l'homme au Togo, c'est un problème épineux. Moi, je ne vais pas par quatre chemins. Il faut le reconnaître. Vous savez, le régime se maintient par la peur et par la terreur. Donc, si on veut vraiment respecter les droits de l'homme au Togo. Vous savez, ils ont peur, ceux qui nous gouvernent, ou ceux, du moins ceux qui incarnent le pouvoir actuel au Togo, ils ont peur de quitter le pouvoir. Donc, le fait de traiter d'une manière dégradante, traiter les Togolais cruellement, les met dans la terreur et puis ils ont peur de réclamer leurs droits. Vous savez, au cours des manifestations aussi pacifiques, on essaie toujours de réprimer, de faire la répression pour maintenir la peur et faire en sorte que les Togolais ne sortent pas pour réclamer la démocratie ou la bonne gouvernance qu'ils sont en train de rechercher il y a plusieurs années. Donc le régime se maintient par cette peur et par la terreur, donc c'est ce qui explique les violations récurrentes des droits de l'homme. Et puis les forces armées, surtout la gendarmerie, la police, ils ne sont pas innocents. Information sur les droits de l'homme. Nous avons évoqué cela et nous avons relevé cela aussi au niveau de Genève pour que Genève puisse faire, puisse intervenir au niveau des autorités togolaises pour que les modules et la formation sur les droits de l'homme et sur la torture, la définition de la torture, sa prohibition, tout cela soit enseigné dans les écoles de gendarmerie, dans les écoles de la police et bien même au sein des forces armées togolaises pour que les militaires changent de comportement. Et le comité a insisté là-dessus, puisque c'est faute de connaissance de cet instrument qu'est la Convention contre la torture, et c'est faute de connaissance que certains militaires ou gendarmes et policiers abusent de leur tenue. Donc, je pense que si on les enseigne, on les forme, s'ils continuent là, nous saurons que vraiment, il faut aller encore plus loin.
Justement, et Olivier Aban, certains observateurs pensent également que l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo. Et vous étiez également commandant de cette armée togolaise. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous?
Comme je le dis toujours sur certains médias dans notre pays, l'armée a intervenu dans la vie politique de notre pays dans les années 60. Et je pense qu'en ce moment, il n'y a pas eu de courage pour dire aux militaires de rentrer dans les casernes et de laisser le pouvoir aux civils. Donc l'armée s'est installée, s'est cramponnée au pouvoir. Et je pense que aujourd'hui, il faut que cela soit clair. Ils ont eu à goûter aux délices du pouvoir, donc ils ont tellement pris goût et ils veulent pas aujourd'hui lâcher. Donc il faut que les militaires comprennent et que la culture démocratique doit rentrer aussi dans les casernes et que les militaires doivent savoir qu'au niveau de la constitution de notre pays, l'armée, sa place, c'est dans les casernes. L'armée ne peut pas intervenir dans le débat politique. Et je pense qu'il faut, un lobbying puissant au niveau de certains officiers généraux, officiers supérieurs qui sont encore hermétiques, qui sont fermés à la démocratie, qu'ils comprennent que le monde change, les choses changent, ils doivent changer aussi pour que l'armée n'intervienne plus dans les débats politiques, pour que les élections soient fluides et que celui qui gagne, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, puisse gouverner, même qu'il soit n'importe qui, pourvu qu'il soit togolais, qu'il puisse gouverner et que l'armée n'a rien à faire dans les débats politiques. Il faut qu'on leur explique. Il faut que les chancelleries, j'appelle tout le monde d'intervenir pour qu'au niveau de l'armée, qu'ils se disent que le pouvoir, ce n'est pas dans les casernes. L'armée n'a rien à faire avec le pouvoir politique. L'armée, sa place, c'est de veiller à la sécurité du pays, c'est de protéger les frontières, la gendarmerie, c'est de veiller à ce que
une armée,
la sécurité publique
une armée républicaine
soit maintenue dans notre pays.
Olivier Aman, une dernière question rapidement et parlons maintenant encore une fois des droits de l'homme au Togo. Alors pour le gouvernement togolais, il n'y a pas de crise politique au Togo et bien sûr par rapport également aux droits de l'homme, toujours selon le gouvernement togolais, on note une grande avancée hein, et finalement qui crée donc la confusion, Olivier Aman?
Non, au fait, il faut pas aller par quatre chemins. Vous savez, après plus de 45 ans de règne, le pouvoir n'a plus rien à offrir aux populations. Donc, c'est le pouvoir qui maintient cette confusion, c'est le pouvoir qui maintient ce flou. On dit de faire des réformes. Et l'accord politique global de 2006 dit d'aller aux réformes avant d'aller aux élections. Donc c'est le pouvoir actuel qui je ne sais pas, qui est en train de tout bloquer, qui est en train de mettre la confusion dans le cœur des Togolais, et que c'est tout est dans les mains du pouvoir. Vous savez, je leur demande encore d'être ouverts à la démocratie et de faire les réformes nécessaires. Tout ce que la population demande, il faut qu'ils les analysent avec les autres forces politiques pour trouver un terrain d'entente pour que notre pays soit propulsé dans le concert des nations démocratiques, comme le Ghana, comme le Bénin et d'autres pays. C'est ce que nous voulons. Faire des réformes, je pense que cela va dans l'intérêt de tout le monde, les réformes, et que le pouvoir actuel, je pense, le sait. S'il fait des réformes, des très bonnes réformes, je pense qu'il y aura une alternance et que c'est l'alternance qu'ils ne souhaitent pas. Ils pensent toujours qu'ils sont populaires, mais je pense que ils ne sont plus populaires, ils n'ont qu'à le savoir, et de faire des réformes et que tout ce que les Togolais vont voter, c'est-à-dire que le verdict des urnes puisse l'emporter sur la force brute.
Olivier Aman, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle à nos fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canaleka, également nos auditeurs qui vont nous suivre en direct demain dimanche sur notre radio partenaire Légende FM, et que vous êtes le président de l'association des victimes de la torture au Togo. Encore une fois, merci et bonsoir chez vous depuis Lomé au Togo.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo. diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, être bien informé, c'est être bien formé. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Il a tout perdu et le peuple togolais n'a Dieu que pour les éperviers. La sélection togolaise qui, après les malheureux événements de Cabinda, c'est une fois de plus et avec brio qualifiée pour prendre part à la CAN 2013 prévue en Afrique du Sud. À quelques semaines de ce grand rendez-vous sportif africain, plus rien ne va dans les rangs de nos ambassadeurs. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN 2013, on assiste donc au sein des éperviers du Togo à la démission en cascade. Ce sont désormais le gardien Kossi Agassa et le milieu de terrain Alexis Romaro, ainsi que le sélectionneur Didier Six, qui menace de ne pas participer à la CAN à la suite de la démission du capitaine Emmanuel Adebayor Chey. Dans leur ensemble, joueurs, dirigeants sportifs, voire le ministère des Sports et des Loisirs, sont à couteau tiré. Aucune idée précise sur l'état des préparatifs de la délégation togolaise. Elles sont nombreuses, les accusations effusent d'ici et là. Et chaque groupe se renvoie les torts. Eh bien, dans un souci et citoyen et sportif, votre émission Fenêtre sur l'Afrique vous propose en exclusivité une édition spéciale consacrée au football togolais. Eh bien, dans la première partie de cette émission, ensemble, journalistes et anciens joueurs et autres personnes ressources se sont fait le devoir de mettre la balle à terre à travers réflexions, propositions et suggestions afin d'aider au retour de l'indispensable cohésion dans les rangs des éperviers. Et dans un instant même, dans cette deuxième partie, nous allons également accueillir Raoul Adabla, qui sera l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Raoul Adabla a été un membre influent de la Fédération togolaise de football. Nous allons le recevoir dans un instant. Cette chanson, je l'avais dit dans la toute première partie de cette émission, cette chanson qui faisait la fierté du public sportif également, encourageait les joueurs professionnels togolais. J'espère que cette chanson va encore réconforter ou donner encore une fois le moral aux joueurs, aux éperviers du Togo. Tout de suite en ligne, en direct depuis l'Espagne, je l'avais annoncé que nous allons recevoir également et monsieur Raoul Adabla, et tout de suite en ligne, en direct depuis l'Espagne. Raoul Adabla, bonsoir.
Bonsoir, Ramos, Ivan.
Merci beaucoup, confrère Raoul, d'avoir également accepté notre invitation dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, Raoul Adabla, vous connaissez bien la Fédération Togolaise de Football. Vous y avez occupé plusieurs fonctions de responsabilité dans les commissions techniques les plus influentes, notamment la commission des arbitres et la commission des ligues. Vous avez surtout été durant 6 mois, disons autant pour moi 6 ans, le chargé de la communication et du marketing de la fédération. Alors, en bref, vous connaissez les membres les plus importants du bureau exécutif de la fédération et de l'équipe de football, notamment le président actuel Gabriel Meyi et le deuxième vice-président Tino Atiété. Alors, Raoul Adabla, vous suivez de près la vie de la FTF. Donc, quelle analyse faites-vous de la nouvelle crise qui secoue le football togolais à la veille de la CAN Afrique du Sud 2013, Raoul Adabla?
Le dossier du football togolais est un dossier assez complexe. La nouvelle crise qui a éclaté ne surprend guère celui qui suit de près la vie du football togolais. Cette crise était à prévoir, c'était pratiquement inévitable, non du fait d'une mauvaise volonté des dirigeants, hein, premièrement parce que je pense que l'élément essentiel qu'il faut souligner ici, c'est la question de la formation des dirigeants, de leurs compétences à pouvoir diriger une structure fédérative telle que la Fédération Togolaise de Football. Bon, il y a ça aussi. Et quand je parle des dirigeants de la fédération, les dirigeants de la fédération proviennent tous des clubs. Et ce sont les clubs qui constituent les districts et les ligues qui élisent le président. Donc c'est le président des clubs c'est un président des clubs qui peut devenir président de la fédération. Donc si à la base, il y a un problème de compétences, de formation, de connaissances de la gestion du football, cela se reflète évidemment, hein, par conséquent, donc au niveau le plus élevé de la fédération. Voilà. Donc, de gérer la fédération et la gestion de la fédération par le président actuel.
Elle est chaotique. Elle est chaotique, la gestion.
Oui.
Vous confirmez.
Pardon.
Vous confirmez que la gestion de la Fédération Togolaise de Football est chaotique.
Oui, ça pose problème. Et un problème énorme. Énorme parce que pour gérer une fédération, il faut d'abord le choix des hommes. Le choix des compétences. C'est à partir de là qu'on pose la base, une base solide pour pouvoir s'acquitter correctement des tâches qui sont dévolues aux différentes fonctions et aux différents postes.
Alors, Raoul Adabla, je le disais que vous êtes et vous avez longtemps travaillé au sein de cette fédération. Vous connaissez très bien le président Gabriel Meyi et le deuxième vice-président Tino Atiété. Alors, est-ce que cette crise pouvait-elle être évitée, Raoul Adabla?
Oui, je crois que oui et non. Oui, ça pouvait être évité si on avait su tirer les leçons du passé, des crises précédentes, et si on avait eu le courage d'évaluer ces crises-là, d'en tirer les conséquences, les leçons et d'avancer. Non, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, les gestionnaires n'ont pas les compétences requises pour pouvoir faire face, quelle que soit leur bonne volonté, parce que je connais l'entourage du président actuel, il était très bien entouré par de grands juristes qui connaissent très bien le football togolais, par de grands techniciens qui connaissent très bien le football togolais, mais si ça ne fait pas, c'est que bon, le décideur, celui qui est habilité à arbitrer, celui qui rend les arbitrages nécessaires dans au niveau de la fédération, c'est le président, au final. Donc, s'il n'a pas les connaissances requises, les ressources sont nécessaires pour pouvoir décider dans le sens qu'il faut pour le développement de ce football, ça ne va pas, c'est ça, vous voyez. Bon, le président, c'est un, comment dire, un classique du RPT, c'est un ancien du régime. Vous savez, quand on a des habitudes, c'est difficile de les perdre, hein.
Justement, oui. Allez-y, je pense que vous...
Bon, donc, je crois que Et il a des réflexes de gestion qui ne sont pas des réflexes à la norme, hein, conformes à la norme d'une bonne gestion. Bon, il pense bien faire, mais au final, le résultat est catastrophique. Le problème qui se pose actuellement, c'est un problème de confiance entre les joueurs et les membres dirigeants de la fédération, et entre les membres dirigeants de la fédération eux-mêmes. Parce que il y a une division interne à Sicria, hein, très grave, qui ne dit pas son nom. Et le bureau exécutif, depuis qu'il est en place, n'a même pas organisé une seule fois l'Assemblée générale pour faire le point. Bon, donc, il y a des manquements graves. Le secrétariat de la fédération ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, la personne qui a été placée là-bas, malgré tout le respect que moi je lui dois, n'a pas la compétence requise pour être nommé à ce poste. Bon, ça fait 2 ans déjà, moi, qu'elle est là. Bon, maintenant, je pense qu'elle a dû acquérir un peu plus d'expérience, mais bon, OK. Ça ne permet pas d'avancer, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Au Togo, quand on fait des analyses techniques, on s'en prend à toi tout de suite en disant que moi, OK, tu es en train de me cisailler, de me chercher des noises et tout.
Justement.
Ça. Non, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on puisse poser calmement,
justement,
sans parti pris.
D'accord. Alors,
la question du développement du football togolais.
Alors, Raoul Adabla, dans la première partie de cette émission, nous avons comme invité à l'ancien joueur professionnel Afo Ati, et qui est l'international et mondialiste junior au Chili en 1987, et également Martin Kwakpaki, ancien international, et je pense qu'il avait également, et il était également en ligne en direct depuis la France dans cette émission avec nous, surtout à Fouati, et il a déploré l'absence d'anciens joueurs au sein de cette fédération. Et alors vous avez travaillé avec le président Gabriel Ameyi, le deuxième vice-président Tino Adete, que vous connaissez très bien. Est-ce que vous pensez que la crise qui secoue actuellement la FTF est du fait qu'il y a quand même l'absence d'anciens joueurs au sein de cette fédération?
Oui, j'en suis convaincu, fermement convaincu. C'est ma conviction la plus intime, la plus profonde. Mais la question ne se limite pas à ça. Bon, le football doit gérer par des professionnels du football, normalement, parce que c'est devenu une entreprise aujourd'hui, c'est devenu une affaire commerciale également, parce que la gestion doit être rigoureuse et efficace. Et bon, il y a des normes de rentabilité qu'il faut remplir. Tout ceci m'amène à dire que oui, bon, mais c'est pas parce qu'on a joué au football, on a été professionnel du football, qu'on connaît forcément la gestion du football. Il faut y être formé. Vous voyez. Bon, donc, c'est pour ça que je dis que c'est oui et non. Les anciens footballeurs qui ont été formés à la chose de la gestion du football peuvent apporter énormément au football togolais. C'est leur place même. Vous voyez? Mais bon, sauf tout le reste que je leur dois. À la fois, que j'ai rencontré lors d'une assise des anciens, de l'association des anciens footballeurs togolais à Paris. Bon, on a parlé longuement, même avec le président. Hein, il y a 2 ans, bon, on a parlé longuement. Bon, mais qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à ce football jusqu'à présent? Je les ai entendus tout à l'heure parler, c'est bien. Mais pour moi, c'est des vœux pieux. Et il me semble que c'est Jean-Paul Avalo qui a dit que pour pouvoir faire, il faut qu'il y ait des footballeurs, des autres footballeurs de la diaspora qui acceptent de revenir au pays et pour mettre en œuvre leurs compétences. D'abord, c'est ça, il faut qu'ils acceptent de revenir au pays. Hein. Ensuite, il faut qu'il trouve un club. 2. Il faut qu'il devienne président de club, etc. Rentrer dans les structures des clubs pour qu'il puisse petit à petit accéder aux échelons supérieurs de la gestion et arriver à la fédération. C'est comme ça qu'eux aussi peuvent acquérir l'expérience du terrain au niveau de la gestion et apporter un plus à ce football. Ils ne peuvent pas débarquer, passer mon expression, ils ne peuvent pas arriver et du jour au lendemain et prendre les rênes de la fédération et qu'on puisse espérer que bon, ils vont y arriver. S'ils sont déjà dans des clubs, dans les pays européens où ils sont, où ils évoluent ici, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, en Europe, et qui ne sont pas dans des clubs, qui ne travaillent pas avec des clubs. Donc ils ont perdu de vue pratiquement les nouvelles normes de gestion, tout ce qui se fait au jour le jour aujourd'hui. Vous voyez. Donc, y a tout, c'est assez complexe.
Justement. Alors, Raoul Adaba, revenant encore une fois sur cette crise qui mine actuellement la Fédération Togolaise de Football. Alors, parlant justement de cette crise, c'est le capitaine Emmanuel Adebayor Cheyi. Et c'est pas par lui hein, que cette crise a été éclatée. Alors une fois encore, serait-on tenté d'affirmer cette question? Je l'avais aussi posée aux anciens joueurs à Fouati et puis également à Martin Kouabaki. Hein. Est-ce que une fois encore, serait-on tenté d'affirmer que Emmanuel Adebayor est-il un fauteur de troubles? Et quelle est votre opinion là-dessus, Monsieur Adabla?
Fauteur de troubles. Voilà, mon opinion est celle-ci. C'est bien d'avoir tiré l'alarme. On dit qu'il y a un problème, d'avoir soulevé la question. Mais je pense qu'il faut aussi savoir soulever les problèmes. Il y a la forme, il y a le fond. Sur le fond, il a raison. Il n'y a pas membre de problème. Et le président lui a menti. Bon, selon ses déclarations, si on vérifie les faits, il a parfaitement raison sur un certain nombre de dossiers. Parfaitement. Bon, ou bien le président n'a pas su s'exprimer, n'a pas su exprimer ses idées, n'a pas su exprimer sa position et ce qu'il a dit finalement, bon, se révèle que c'est des mensonges. Ok, le ministre même de la jeunesse et le ministre même des sports, en soi des sports, a dû faire un communiqué pour rectifier le président de la fédération sur ses déclarations lorsqu'il a dit qu'il n'a reçu que la fédération n'a reçu que 29 200 francs CFA. Le gouvernement a dit non, que c'était 44 150 000, que bon, en espèces, le président a effectivement reçu 19 millions, mais il y a d'autres frais annexes. Oui. Donc, ça dit déjà beaucoup sur le niveau d'appréhension de la question de la gestion financière du président. Vous voyez. Pour lui, ce qu'il a reçu du ministère, c'est ce qu'il a reçu en liquide. C'est l'argent liquide et pas tout le reste. Vous voyez, donc c'est une question de formation et de compétence, je dis. Bon, maintenant, pour Adebayor, je dis qu'il faut être conséquent envers soi-même. C'est bien d'avoir soulevé le problème, d'avoir fait toutes les enquêtes qu'il a menées, les investigations qu'il a faites pour vérifier les informations du président qui sont avérées fausses. Mmh. Ok, maintenant, il faut en tirer des conclusions et ne pas avoir une réaction à fleur de peau. Quand il a réagi, pour moi, j'ai trouvé que c'est une réaction précipitée en disant que bon, je ne pars plus, je vais plus à la phase finale. Non, il a conduit le peuple togolais, le football togolais à cette phase finale. Il faut y être. Ça, c'est ma première position.
Il faut aussi quand même rappeler que, Raoul Adaba, il faut quand même aussi rappeler que nos invités anciens joueurs internationaux, à Fouati et puis Martin Kouabaki, avaient également approuvé l'attitude du capitaine Emmanuel Adebayor Cheyi. Hein.
Moi, je ne dis pas que j'approuve l'attitude du capitaine. Hein, en ce sens que, bon, c'est-à-dire les déclarations, la radio... Tout cela, je pense que dans le contexte actuel, c'est un peu difficile. Il faut dire la vérité. Je suis d'accord avec lui sur le fond. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit la vérité. C'est des questions de gestion qu'on a soulevées, qu'on a relevées depuis longtemps, qu'on a soulevées et qui se posent. Et même entre les membres du bureau exécutif, qui se sont échangés des courriers, hein, qui certains sont arrivés à la place publique, les médias en ont fait écho. Bon, c'est tout un passez-moi l'expression, c'est un panier à crabe, cette fédération. Vous voyez. Donc, il le savait avant de revenir. Bon, on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est pour ça qu'il dit que la question de la confiance aussi se pose. Maintenant, il a géré. Moi, je dis, il a lancé l'alerte. Mais il faut qu'il reste pour qu'on continue, pour continuer les négociations, pour corriger les choses, pour apporter des solutions. S'il s'en va, qui va apporter des solutions? Qui va lui apporter des solutions pour qu'il revienne après? Non, il faut qu'il soit dans le bateau. Hein? On dit au capitaine, ne quitte pas son bateau lorsque il y a risque de naufrage. Il faut qu'il soit là.
Lorsque le bateau coule, alors.
Oui, il faut qu'il soit là.
Je ne pense pas que c'était l'idée du capitaine Adebayor Cheyi. C'est plutôt l'idée de réorganiser le football togolais, de réclamer les primes des joueurs comme il le faut. C'est ça, je pense.
Bon, réclamer des primes, c'est leur droit le plus absolu. Il dit que je suis d'accord sur ce plan-là. Tu dois réclamer les primes. Ils doivent discuter. Normalement, les prix doivent être fixés même avant le début des compétitions, des éliminatoires, pour savoir que bon, quand on est qualifié, et on a droit à quoi. Pour les primes de qualification, il faudra le montant. Les primes de participation à la phase finale, les voilà. Quand on gagne un match, les matchs du premier tour, voilà les primes de victoire, de match nul et de défaite, s'il y en a. Ensuite, au second tour, qu'est-ce qu'on a comme prime? En demi-finale, la finale, qu'est-ce qu'on a comme prime? Et comment on répartit ces primes entre les joueurs, ceux qui sont titulaires, ceux qui ne le sont pas? Donc, c'est des questions qu'il faut résoudre, auxquelles il faut trouver des solutions dès le départ. Pas à l'arrivée.
Mm-hmm. Alors,
donc, quelque part, mm-hmm. eux aussi, ils sont fautifs.
Bien sûr. Alors, Raoul Adabla, et le vin est tiré, il faut le boire, on dit souvent. Et alors, la crise perdue, la crise, elle est là. Mais le Togo est déjà qualifié pour la CAN 2013, Afrique du Sud 2013. Alors, dans ces conditions, dans les conditions actuelles, hein, Raoul Adabla, quelles sont les chances du Togo de réussir à la CAN 2013?
Quasi nul. Quasi nul. Et totalement nul si les... Quasi nul si les joueurs y vont. Les joueurs qui ont qualifié le pays
à cette phase. Et là, vous parlez sans langue de bois.
Non, sans langue de bois.
Mm-hmm.
Hein. Mm-hmm. S'ils y vont, hein, puisqu'il y a une rupture de confiance entre eux et les membres dirigeants de la fédération, ça va être difficile de mouiller le maillot pour le pays même, parce qu'à travers le pays, c'est eux qui vont récolter les fruits. Hein. Et il y aura ça quelque part dans les têtes, quelque part. Maintenant, s'ils n'y vont pas, si les éléments clés de la sélection n'y vont pas, ça va être la débâcle totale. Ça, c'est sûr. C'est pratiquement certain. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas faire croire aux Togolais, aux supporters des éperviers que même sans eux, on peut aller faire quelque chose. C'est archi faux.
De toute façon, Raoul Adabla, je peux vous comprendre, c'est votre opinion, mais ici, à la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique, on peut encore rester optimiste et mettre la balle à terre comme nous la suggérer également notre confrère Ekwesa TV qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à réaliser cette émission. Alors, je vous remercie beaucoup, Raoul Adabla, d'avoir participé à cette émission, d'avoir également commenté, analysé, décrypté la crise qui se actuellement et la Fédération togolaise de football. Merci.
Merci à moi, Sylvain. Mm-hmm. Merci pour tout.
Mm-hmm.
Et je suis toujours à votre disposition.
Merci beaucoup.
Quand vous voudrez.
Mm-hmm. À bientôt et salutations à nos compatriotes depuis l'Espagne.
Merci.
Au revoir, bonsoir.
Je vais transmettre, bonsoir.
Cette chanson est exclusivement dédiée aux éperviers du Togo, bien sûr qu'il y a un problème qui mine actuellement le football togolais, mais on reste quand même optimiste. Cette chanson peut encore leur donner réconfort, la joie et le courage d'affronter cette compétition. Et bonsoir également au public sportif togolais qui vont nous suivre demain dimanche 18h sur notre radio partenaire Légende FM. Merci de votre fidélité. Merci également, bonsoir également depuis Lomé Bagida à Monsieur Tété, à Jacqueline et Rosie, tous sportifs. Merci également à la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique et à notre confrère Kwesa TV qui nous a beaucoup aidé à réaliser cette émission. bien, avant de clôturer cette émission, nous n'allons pas également oublier le sportif Narcisse depuis Super Taco à Lomé. Bonsoir à tout le public sportif togolais. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Romé Koudodi, Fabi Kwasi, Augustin Amega, Sylvain Amos, Esteban Gagnon, Josué Maoli vous ont tenu compagnie pendant 2 heures de loge.
Perdi.